On va parler de golf maintenant aux amateurs de sport, notamment. Avez-vous regardé des séquences du US Open en cours depuis hier, des conditions vraiment difficiles qui ne semblent pas trop affecter quelques golfeurs seulement, dont Dustin Johnson qui mène après deux rondes, 69 hier, là, vraiment avec des vents très, très forts, 67 aujourd'hui, un cumulatif de moins 4. Puis il y en a un qui s'est remis dans le coup, c'est Ian Poulter à moins 3, mais tous les autres sont à la normale ou en haut, dont Tiger à plus 10. Philippe Quentin, bonsoir.
Salut Mario.
Donc un tournoi très difficile, tout un challenge pour les golfeurs. Hein?
Oui, il y a deux théories. Il y a des gens qui aiment ça, regarder ça, qui disent « Wow, c'est fantastique, un terrain super difficile, c'est là qu'on voit vraiment qu'il est capable de se débrouiller. » Puis il y en a d'autres, des amateurs, qui disent « Ben non, c'est bien trop dur. Ce qu'on aime voir, c'est des birdies, une série de 3-4 birdies tout à coup qui va permettre à un joueur de monter au classement. » Alors, il y a ces deux théories-là. Mais moi, je regarde ça depuis deux jours avec passablement d'intérêt, puis je trouve ça assez fascinant parce que le terrain a des difficultés absolument incroyables. Le vent, spécialement hier, a rendu ça encore plus laborieux pour plusieurs joueurs. Alors, d'essayer de les voir, de se dépêtrer dans ces conditions-là avec un terrain qui est très, très dur, c'est quand même du grand spectacle, même si on voit moins de coups magistraux.
Est-ce que tu as l'impression que les dirigeants du golf américain aime ça soumettre les golfeurs professionnels à un test d'humilité?
Ben, j'ai l'impression qu'ils veulent que leur tournoi se distingue par rapport aux autres majeurs, et c'est un peu la façon dont ils ont trouvé en rendant le terrain très dur. Mais on sent que ça, il y a beaucoup de golfeurs qui sont pas contents. Puis tu regardes la performance de Rory McIlroy qui participera pas aux deux dernières rondes ce week-end. Il était hors jeu à peu près dès le début. Jeudi là, sa première ronde après 4 trous, Rory McIlroy, un des favoris du tournoi, était déjà plus 4. Alors c'était mal parti pour lui. Puis il y avait eu des commentaires assez critique face au terrain dans les jours qui ont précédé. Alors, tu te demandes même au niveau de son approche mentale, est-ce que c'était optimal ou il était déjà battu par le terrain avant que ça commence? T'sais, je pense que la question se pose parce qu'il a vraiment pas été convaincant. Et ça, quand on analyse ça à la lumière de ses déclarations dans les heures qui ont précédé, il y a quelque chose, là, il y a eu une adéquation entre les deux. Il était inquiet puis ça n'a pas fonctionné. Mais oui, je pense que les dirigeants du US Open veulent faire un test de golf exceptionnel. C'est un risque, bien sûr, parce que là, il y a plusieurs grands champions qui génèrent des cotes d'écoute exceptionnelles aux États-Unis qui seront pas dans la course. Le Tiger Woods, d'abord et avant tout, qui participera pas aux deux dernières rondes. Et Jordan Spieth, qui, lui, va sans doute participer, là, mais vraiment parmi les derniers qualifiés. Alors, à moins d'un rebond spectaculaire, il sera pas vraiment là dans l'explication finale le dimanche.
Je me mets à la place de Tiger. Il avait parké son yacht dans B, alors tant qu'il va pas, il va pas profiter de la fin de semaine, Philippe.
Ouais. Écoute, j'écoutais ça, puis l'intérêt autour de Tiger est formidable, on le sait. Puis on en parlait, toi et moi, tu te souviens?
Ben oui.
Beaucoup de gens qui disent, oui, c'est une question de temps avant que Tiger gagne. Moi, je suis loin d'en être convaincu. Je t'ai expliqué ma théorie là-dessus récemment. Et je regarde jeudi, la première ronde du tournoi, comment il a commencé. Alors, il commence sur le premier trou, un coup de départ prudent avec un fer, mais il est très bien placé. Il lui reste 150 verges à peu près pour le verre. Et là, à la télé américaine, l'analyste dit, là, il y a une chose qu'il faut pas qu'il fasse, c'est qu'il faut pas qu'il défonce le verre. Parce que là, s'il fait ça, il va se retrouver dans l'embarras. Bien, c'est en plein ça qui est arrivé. Il a défoncé. Oui. Et là, ça lui a pris. Il a raté sa première approche. Il est resté là. Il a changé ça pour un putter. Il a essayé de putter la balle. Il est revenu vers lui. Bref, il a commencé avec un très mauvais résultat sur le premier trou. Alors, tout de suite, il était pas mal hors jeu. Et ça, c'est sûr que pour le tournoi, c'est pas une bonne nouvelle, parce que là, il s'est rétabli un petit peu, mais il n'a pas été capable de tenir le coup, puis aujourd'hui, ça a été très difficile encore. Alors,
On va profiter de la ballonne Tiger pour gonfler les cotes d'écoute au-delà d'aujourd'hui. Ce qu'on fait souvent, tout le monde, parce que c'est un scénario auquel, qui fait rêver, mais qui a peut-être pas de faibles chances de se concrétiser.
Ouais,
mais
c'est pas très, très ancré dans la réalité, je pense. Mais, comme tu le disais l'autre jour, puis je suis d'accord d'accord avec toi. S'il y a une chance, ça va être au tournoi des maîtres. Mais le tournoi des maîtres, c'est une fois par année. Là,
exact.
Puis moi, je persiste à penser que peut-être qu'il peut faire un bon numéro à l'Omnium britannique parce qu'il a déjà eu du succès. Puis peut-être que ça convient mieux à son jeu. Mais là, à Shinnecock Hills, ça a été très, très, beaucoup trop dur là, pour lui.
Philippe, nos collègues de la région d'Ottawa ne s'ennuient pas avec l'actualité qui émane de l'Organisation des sénateurs. On apprend aujourd'hui que l'adjointe de Pierre Dorion, qui, on sait, a passé des moments en prison à Buffalo, relié à des accusations de harcèlement, a été suspendue jusqu'à ce que le dossier connaisse un dénouement. Ouais. Donc, on a attendu d'avoir plus de détails. On annonçait qu'on le suspendait aujourd'hui. Et l'autre histoire qui secoue cette équipe-là, eh bien, tu sais, c'est laquelle. Et là, l'attaquant des sénateurs d'Ottawa, Mike Hoffman, et sa fiancée, Monica Carrick, ont déclaré qu'ils n'avaient rien à se reprocher dans l'histoire de cyberintimidation de Melinda Carlson, la femme du capitaine de l'équipe Eric Carlson. Le couple a mentionné à Post Media Ottawa qu'ils étaient tristes pour la famille Carlson, qui voulait aider à démasquer la personne responsable du méfait. Madame Carrick a dit qu'elle avait même embauché un avocat pour aider les Carlson et les sénateurs à mettre sur pied une enquête indépendante en disant qu'ils n'ont rien à se reprocher. Et pourtant, Madame Carlson, elle, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté dans ses propos. Elle dit que Madame Carrick a publié des centaines de messages haineux sur les réseaux sociaux visant son époux et elle. Je ne sais pas comment ça va finir, cette histoire-là, mais waouh, hein? C'est assez hors de l'ordinaire.
C'est hors de l'ordinaire, en effet. Et pour les sénateurs d'Ottawa, c'est un problème majeur. C'est d'une complexité très, très grande aussi. Et l'organisation doit composer avec ça. Et là, toutes les questions se posent. Est-ce que c'était connu au sein de l'équipe depuis longtemps? Est-ce que ça peut expliquer un certain nombre des problèmes qu'ils ont eu cette saison? Tu sais, ça ouvre la porte à beaucoup de questions sur comment cette équipe-là a vécu sa saison 2017-2018. Et là, je pense que oui, effectivement, il va falloir que rapidement, ils fassent la lumière sur ces allégations-là parce qu'elles sont d'une gravité extrême. Et il faut absolument qu'on sache ou que les sénateurs d'Ottawa sachent exactement ce qui s'est produit. On voit d'ailleurs avec les médias sociaux et l'utilisation des médias sociaux pour la deuxième fois dans un court laps de temps. C'est une situation très délicate. Souviens-toi avec les 76ers de Philadelphie.
Colangelo.
Ouais, exactement. Brian Colangelo, bon, où on a dit qu'il y avait des comptes Twitter qui le défendaient puis qui révélaient de l'information un peu confidentielle à propos de l'équipe. Est-ce que c'était lui qui était à l'origine de ces comptes-là? Finalement, non. C'était son épouse, mais il a été obligé de quitter son poste. Alors, c'est toute la problématique qui est causée par ces situations-là, mais il faut que les organisations aillent vite le plus rapidement possible. Il faut qu'elles fassent bien les choses aussi puis qu'elles prennent le temps d'étudier les dossiers et probablement que c'est ça, qu'elles embauchent des enquêteurs. Souvent, il y a des bureaux d'avocats qui sont spécialisés dans ces questions-là pour aller rapidement parce que ça peut pas traîner trop longtemps. Dans le cas des 76ers, la NBA a agi vite et en dedans de quoi, une dizaine de jours, la question est redevenue limpide puis on a su où on s'en allait. Mais là, pour les sénateurs d'Ottawa qui sont dans une période très difficile au plan organisationnel, on l'a vu toute l'année avec la question de leur nouvel amphithéâtre, les déclarations de leur propriétaire qui a laissé planer un doute au mois de décembre sur l'avenir de l'équipe à Ottawa. Tu sais, ça va pas bien à Ottawa à l'heure actuelle. Et là, tout ce dossier-là qui se rajoute, il faut absolument qu'ils trouvent, qu'ils fassent très rapidement la lumière là-dessus et par la suite qu'ils prennent les décisions en conséquence.
Soccer, Ignacio Piatti est nommé joueur de la semaine dans la MLS. La nomination a été publiée aujourd'hui. Lui qui a été très, très productif lors de la dernière rencontre.
Penses-tu
de la dernière victoire.
Ben,
écoute, c'est sûr qu'il est content.
Ouais.
Lui qui donne des entrevues juste quand il compte des buts, cependant, mais
ouais,
qui, enfin,
ça.
Donc, un bout de temps plus tard, a réagi au propos de Joey Saputo, là.
Hein?
Ouais. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, je pense que c'est le signe d'une situation très difficile entre l'Impact et son meilleur joueur. Ce qu'il a dit, Piatti, c'est assez clair, là, après la victoire de l'Impact. Il dit, ben, écoute, si Monsieur Saputo pense que c'est moi le problème, je vais aller jouer ailleurs. Alors, quand ton meilleur joueur déclare ça en pleine saison, là, c'est clair que l'ambiance est pas trop guérette au sein de l'organisation. Et là, tu te demandes un peu comment l'Impact va réussir réussir à composer avec cette situation-là? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « ça serait le fun que l'Impact, profitant de la période de transfert qui va bientôt s'ouvrir, aille chercher de meilleurs joueurs, puis bon, réussisse à convaincre des joueurs de talent de se joindre à l'organisation. » Mais là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que pour un joueur qui envisagerait peut-être un transfert, que ce soit en Major League Soccer ou avec l'Impact ou peu importe, est-ce que l'organisation est attrayante quand tu sais que le meilleur joueur a signé un contrat très payant, que 6 mois plus tard, le propriétaire déclare dans une entrevue diffusée en direct à la radio qu'il a peut-être fait une erreur, qu'il a peut-être donné trop d'argent, qu'il aurait peut-être dû en embaucher trois joueurs pour ce prix-là.
Ça te rappelle pas Charles Bronfman avec Gary Carter?
Ouais, exactement.
Personne n'en a vraiment parlé, mais c'est ça qu'on avait vécu à l'époque avec Charles Bronfman et le contrat de Gary.
Ouais. Maintenant, Gary Carter, dans ce dossier-là, Charles Bronfman avait eu la bonne idée de faire sa déclaration à la fin de la saison.
C'est
toute la différence au monde. Les Expos, la saison n'était pas tout à fait terminée, il restait une semaine, mais il était clair que les Expos avaient raté pendant ce dernier séjour à domicile la chance de remporter le championnat de la division et d'accéder aux séries éliminatoires. C'était terminé dans les faits. Et c'est justement après le match du dimanche après-midi que Charles Bronfman a fait un premier bilan de son équipe en disant on a commis une erreur en donnant autant d'argent à Gary Carter. Alors, Carter est revenu la saison suivante, mais les relations entre les deux hommes n'ont jamais été bonnes. Et un an plus tard, Carter a été échangé, puis là, il est allé avec les Mets de New York, puis il a remporté la Série mondiale une autre année plus tard. Mais au moins, c'était quand la saison était terminée. Alors là, l'Impact, faut vivre avec la déclaration du président et la réaction avec raison, là, mais on se met dans les souliers du joueur. C'est pas le fun quand ton patron déclare publiquement que c'est peut-être trompé en t'embauchant. Donc, il faut vivre avec ça en pleine saison. Alors là, les joueurs, qu'est-ce qu'ils en pensent, l'entraîneur aussi, ça crée une situation extrêmement difficile.
Je ne sais pas si dans le privé de leur discussion, Joey Saputo est allé aussi loin que Bronfman était allé avec Gary Carter. Lui qui raconte dans son livre qu'il avait dit à Carter que lui, dans le fond, il cognait des circuits quand il n'y avait pas personne de ses buts, mais qu'il se faisait passer dans la mitaine quand c'était le temps de frapper.
C'était assez dur comme commentaire.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Philippe. Une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi.
Et à toi aussi, Mario. Salut.
Bye-bye. À très bientôt. Dans quelques instants, on s'entretient avec Steve Bégin, nouvel adjoint de Steve Hartley avec les Voltigeurs de Drummondville.